Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français chez Belfond en 2018, Pour une écologie spirituelle est un essai de Satish Kumar, ancien moine jain, militant écologiste et héritier intellectuel de Gandhi. Loin de proposer un catalogue de gestes verts ou une analyse technique des crises environnementales, le livre défend une transformation des relations humaines au vivant. Son cadre central est la trinité terre-âme-société. Pour Kumar, la dégradation écologique, le mal-être intérieur et les injustices sociales relèvent d'un même déséquilibre et ne peuvent donc être traités séparément. Nourri notamment par la Bhagavad Gita, l'ouvrage articule spiritualité, non-violence, sobriété et responsabilité collective. Il privilégie une écologie de la gratitude et de l'interdépendance plutôt qu'une mobilisation fondée uniquement sur la peur ou la culpabilité, accessible et volontairement ample. Ce texte cherche moins à fournir un programme politique exhaustif qu'à modifier les critères par lesquels chacun évalue ses choix de vie, son travail, sa consommation et sa place parmi les autres formes de vie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la trinité terre, âme. Société comme cadre d'une écologie indivisible, la proposition la plus distinctive de Satish Kumar est de penser ensemble la terre, l'âme et la société. La terre désigne le monde matériel dont dépendent les humains, des sols à l'eau, des forêts à la nourriture. L'âme renvoie à la vie intérieure, à la conscience et à la capacité de cultiver une relation juste avec soi-même. La société concerne les liens collectifs, la justice, l'économie et les institutions qui organisent la coexistence. Ce triptyque vise à contester les séparations habituelles entre écologie, développement personnel et politique sociale. Protéger un espace naturel tout en acceptant des rapports de travail destructeurs ou une grande inégalité ne constitue pas, dans cette logique, une réponse complète. De même, une quête spirituelle centrée sur le seul apaisement individuel devient insuffisante si elle ignore la souffrance sociale et la destruction du vivant. Kumar ne présente donc pas l'écologie comme un secteur d'action parmi d'autres, mais comme une manière de réordonner les priorités. L'intérêt analytique de ce cadre tient à son principe de cohérence. Une décision est à examiner selon ses effets conjoints sur l'intégrité des écosystèmes, la qualité humaine de ceux qu'elle implique et le bien commun. Cette grille demeure générale. Mais elle rend visible la rend visible dont des utilités économiques immédiats peuvent déplacer des coûts vers la nature, les communautés ou la santé intérieure. Deuxièmement, remplacer la peur écologique par la gratitude et la réciprocité envers le vivant. Kumar se distingue de nombreux discours écologiques fondés sur l'alarme, la rareté et la catastrophe imminente. Il ne nie pas la gravité des dommages environnementaux, mais estime que la peur seule produit difficilement une transformation durable. Elle peut susciter le repli, la culpabilité ou des réponses limitées à la protection d'intérêts humains. Son point de départ est plutôt la reconnaissance de la dépendance humaine. Nous vivons grâce à la fertilité des sols, à l'eau, aux plantes, aux animaux et aux multiples formes de coopération du monde vivant. Cette dépendance appelle la gratitude puis la réciprocité. La nature n'est plus un stock de ressources à gérer avec davantage de prudence, mais une communauté dont les humains font partie. Cette orientation modifie le sens de l'action écologique. Préserver une rivière, réduire une pollution ou favoriser une alimentation respectueuse ne relève pas seulement de la prévention d'un risque futur. Cela devient une réponse à ce qui rend déjà la vie possible. La métaphore du gâteau et du glaçage illustre cette hiérarchie. La terre, la santé, le sol. La nourriture et les écosystèmes constituent le gâteau essentiel, tandis que technologie, infrastructure, économie et industrie n'en sont que le glaçage. Lorsque le glaçage prend toute la place, la société perd de vue ses conditions de subsistance. Le livre invite ainsi à reconstruire une culture du respect avant de chercher de simples optimisations techniques. Troisièmement, non-violence. Modération et autodiscipline comme pratique de transition, l'écologie spirituelle de Kumar ne repose pas sur une opposition abstraite entre pureté individuelle et société moderne. Elle propose des disciplines de vie inspirées des traditions indiennes et de l'héritage gandhien. La non-violence élargit la question morale au traitement des personnes, des animaux et des milieux naturels. Elle conduit à interroger les formes de consommation ou de production dont les dommages sont dissimulés à distance. La modération vise à limiter l'idée selon laquelle le bien-être dépendrait d'une accumulation indéfinie de biens, d'énergie ou de statut. L'autodiscipline, enfin, désigne la capacité à orienter ses désirs plutôt qu'à les laisser être organisés par la publicité, la compétition et l'habitude. Ces principes ne sont pas proposés comme un ascétisme coupé du réel. Kumar les relie à une sobriété heureuse, c'est-à-dire à la recherche d'une vie suffisamment riche, créative et relationnelle sans être fondée sur le gaspillage. Cette position offre une critique des solutions qui promettent de maintenir les mêmes niveaux de surconsommation grâce à des technologies prétendument propres. Elle rappelle que l'efficacité peut réduire certains impacts, mais ne résout pas à elle seule la question des finalités. En revanche, le livre reste davantage un essai d'orientation éthique qu'un manuel détaillant les arbitrages économiques et politiques nécessaires. Sa force est de rendre la retenue désirable et cohérente, non de fournir une feuille de route chiffrée. Quatrièmement, Dana, sacrifice et austérité au service du bien commun. Kumar mobilise trois notions issues de la Bhagavad Gita, Yajna, Tapas et Dana, pour relier transformation personnelle et responsabilité civique. Yajna, souvent traduit par sacrifice, ne désigne pas nécessairement une privation spectaculaire. Dans le contexte du livre, il évoque l'abandon d'une part de l'intérêt immédiat au profit de relations plus justes avec le monde. Tapas, ou austérité, renvoie à une discipline qui permet de résister aux excès et de clarifier ses besoins. Dana est le devoir de donner, de partager et de servir avant de se servir. C'est probablement le concept social le plus concret de cette triade. Kumar insiste sur le fait que chaque individu est redevable à la société qu'il a nourrie, éduquée et soutenue. La générosité ne se réduit donc pas à un geste charitable occasionnel. Elle implique de contribuer au bien commun et de combattre les injustices qui fragilisent les communautés. Cette lecture de Dana évite de limiter l'écologie aux choix privés, tels que le tri ou l'achat responsable. Elle réintroduit les obligations de solidarité, de coopération locale et de justice sociale. L'articulation des trois notions souligne aussi que le changement collectif exige plus qu'une opinion favorable à l'environnement. Il suppose de déplacer du temps, des ressources et de l'attention vers ce qui soutient durablement la vie commune. Le risque de l'approche est son niveau de généralité, mais elle fournit un vocabulaire moral clair pour discuter des renoncements nécessaires. En dernier lieu, réévaluer le travail, l'économie et la réussite à partir du vivant, le livre applique son cadre éthique aux activités ordinaires, notamment au travail et à l'économie. Kumar refuse que le revenu ou la croissance soient les seuls critères de valeur. Une activité devrait être bonne pour la personne qui l'exerce, pour les autres et pour la planète. Ce triple examen prolonge directement la trinité terre-âme-société. Un emploi qui procure un salaire mais abîme la santé, détruit un milieu ou repose sur l'exploitation d'autrui ne peut être considéré comme pleinement satisfaisant. Cette thèse ne nie pas les contraintes matérielles qui pèsent sur les choix professionnels. Elle sert plutôt à contester l'idée que ces contraintes justifieraient de ne jamais questionner les finalités de la production. Kumar oppose à la croissance économique prise comme objectif autonome une croissance du bien-être. Celle-ci suppose de prendre au sérieux la qualité de l'alimentation, des liens sociaux, des paysages, de la santé et du temps disponible. La perspective est particulièrement utile pour lire les contradictions de société qui multiplient les biens et les services tout en dégradant leur base écologique. Elle invite également à valoriser le local, la coopération et les formes de production attentives au cycle naturel. Toutefois, l'essai ne prétend pas résoudre en détail les conflits entre emploi, prix accessible, commerce international et protection environnementale. Sa contribution principale est de déplacer la question économique de combien produire vers ce qui mérite d'être produit, pour qui et à quel coût humain et écologique. En conclusion, Pour une écologie spirituelle s'adresse au lecteur qui cherche une réflexion écologique accessible, mais qui refuse de réduire la crise environnementale à une somme de comportements de consommation. Il sera particulièrement pertinent pour les personnes intéressées par la pensée de Gandhi, les traditions indiennes, la non-violence, la sobriété ou les liens entre justice sociale et protection du vivant. Les lecteurs en quête d'un programme précis de politique publique, de données scientifiques ou de solutions sectorielles y trouveront moins de réponses opérationnelles. Le livre se situe davantage sur le terrain des finalités, des valeurs et des habitudes qui orientent l'action. Son apport pratique réside dans une grille d'examen simple et exigeante. Face à un choix personnel, professionnel ou collectif, il invite à considérer simultanément ses effets sur la Terre, sur la vie intérieure et sur la société. Cette cohérence peut aider à distinguer les ajustements superficiels des transformations plus profondes. Sur le plan intellectuel, l'essai propose une critique de l'anthropocentrisme et de la croissance illimitée sans adopter un ton uniquement catastrophiste. Sa différence avec beaucoup de manifestes écologiques tient à ce refus de séparer le soin des écosystèmes du soin de soi et du combat contre l'injustice. La spiritualité y est présentée non comme une échappée privée, mais comme une responsabilité relationnelle, malgré un argumentaire parfois plus inspirant que démonstratif. La clarté de cette vision intégratrice fait du livre une porte d'entrée singulière vers une écologie fondée sur l'interdépendance et la réciprocité. Si vous souhaitez soutenir Satish Kumar, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.